Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Je ne sais quoi, le premier podcast beauté made in France. Salut Clémence.
Salut Diana.
Pour ce nouveau numéro avec Clémence, nous avons décidé de nous pencher sur un moment clé de la journée. Que le réveil sonne à 6h, 7h, 8h, 9h, voire 11h pour certains. Que l'on écoute France Info, France Inter, que l'on regarde Énergie 12 ou BFM Business. Les premiers instants de la journée donnent quoi qu'il arrive le ton à cette journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sommaire avec Clémence.
C'est parti. Alors, en première partie, nous allons recevoir Lily Barbery. Je suis très très contente parce que je suis Lily Barbery depuis très longtemps, la nouvelle amie du petit déjeuner qui est un peu mon repas préféré sur Terre. Et comme nous le faisons désormais à chaque numéro, on va bien entendu faire un petit crash test avec Diana, donc, qui est abonnée au crash test, c'est plus moi, et les nouveautés repérées par Diana pour que vous sachiez tout ce qui va sortir dans les mois qui arrivent.
Pour ce nouveau numéro de Je ne sais quoi, nous avons invité une jeune femme qui se lève tôt, mais surtout qui vient de sortir un livre qui est un ode au petit déjeuner. Et j'avoue que feuilleter les pages de Pink My Breakfast donne même envie de mettre le réveil un peu plus tôt pour se préparer quelque chose d'assez fantastique, de joli, et de commencer la journée en beauté, en gourmandise, tout ce qu'on aime avec Clémence. Bienvenue Lily.
Bah écoutez, merci de me recevoir, je suis trop contente.
Nous aussi, en plus, bon, je sais pas pour toi Diana, mais moi le petit déj. C'est un peu mon repas préféré pour l'anecdote. On a fait la rencontre des parents avec mon amoureux il y a 2 semaines et c'était un brunch, voilà, avec des recettes de ton bouquin.
Ah, c'est génial.
Donc voilà, tu vois, c'est assez important pour nous. Diana, je ne sais pas si t'es l'amie du petit déjeuner aussi.
Alors la semaine, malheureusement non, mais le week-end, ouais, en général le dimanche, on se fait un gros brunch et ça y est, moi je me suis lancée à faire des scones. C'est donc bon. Mon mec est ravi.
Moi aussi, tout le monde peut en profiter, voilà. C'est génial.
Alors, première question, finalement, ce matin, quel a été ton petit déjeuner ?
Alors, je sors du yoga d'un cours. Je ne mange jamais avant de faire du sport. Et du coup, je n'avais pas vraiment le temps. Et là, je viens de passer me chercher un petit truc chez Wild and the Moon, qui est une petite cantine végétarienne parisienne. Et voilà, donc là, je suis en train de boire un chai tea et j'ai mangé un yaourt au lait de coco avec des agrumes dedans. C'était pas mal.
Ça avait l'air pas mal,
ouais.
On confirme. Et du coup, donc, le petit déjeuner, comment ça t'est venu en fait finalement ? Parce que c'est un repas dont on parle beaucoup, mais les gens prennent pas forcément le temps.
Écoute, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré le petit déj. Quand j'étais petite, moi je suis quelqu'un qui me réveille naturellement tôt et sans réveil. Et ça a longtemps été un handicap parce que quand j'étais invitée à dormir chez des copines, j'étais toujours la première réveillée, j'attendais que les autres se lèvent. Et à la maison, c'était aussi assez souvent le cas, j'étais la première levée. Et j'aimais bien préparer cette table. Et je pense que comme tous les enfants, on a tous été fascinés par les paquets de céréales industrielles avec les jeux où on lit la fiche nutritionnelle 150 fois en se réveillant. Mais moi, tout ça, c'était synonyme de fantaisie parce que contrairement aux autres repas, j'aimais bien l'idée que ce repas-là autorisait plein de folies. C'est-à-dire on pouvait manger du salé avec des œufs à la coque, des mouillettes avec du beurre salé, voire même de la charcuterie, enfin de la charcuterie, du jambon, du bacon, parce que mes parents ont vécu en Angleterre, donc c'est vrai qu'ils avaient cette culture-là du déjeuner plutôt à l'anglaise.
Ouais, la tradition en Angleterre est totalement différente.
Absolument. Et puis, à côté de ça, il y avait une profusion de choses possibles. Alors que quand on me servait mon repas du déjeuner, ben, y avait un plat à la cantine et c'était tout. Donc j'aimais bien cette profusion de choix et de pluralité dans la proposition. Alors j'ai appris récemment qu'on petit déjeune de manière assez copieuse plutôt dans le nord de l'Europe et plutôt assez léger dans le sud. Et il y a une raison à ça, c'est que le petit déjeuner, le déjeuner, ça veut dire casser le jeûne comme breakfast en anglais. Et quand on a mangé plutôt tardivement, ce qui est le cas dans le sud de l'Europe, qu'on a dîné vers 22-23 heures, le matin, on n'a naturellement pas vraiment faim. Et si on a des habitudes à dîner plutôt tard, bah voilà, on n'a pas de raison en fait, de petit déjeuner à 7 heures du matin, on n'a pas faim. Et il ne s'agit pas avec ce livre de se forcer à manger le matin pour essayer de faire comme moi, c'est plutôt de se dire bah, peut-être qu'au moment où on aura faim le week-end, on va peut-être changer ses habitudes de toujours prendre la même chose, ce qui est un peu lassant. Et ce que je trouve aussi dommage, c'est que c'est souvent expédié. Donc, on part en courant, on a son café avalé en 2 secondes en train d'enfiler sa cravate ou bien de remettre son rouge à lèvres. Et puis, on chope un fruit ou bien, enfin, ça, c'est voilà, dans le meilleur des cas, mais ça peut être aussi le paquet de gâteaux des enfants.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et en courant, on s'avale sans prendre conscience de ce qu'on est en train de manger, 2-3 trucs qui nous font pas vraiment du bien, et une heure plus tard on a faim à nouveau, mais on sait même pas pourquoi. Donc pour moi c'était vraiment l'idée d'essayer de mettre de la conscience en fait dans ce repas.
Au final c'est un peu aussi se reconnecter à soi-même, de prendre le temps de démarrer la journée avec un petit moment à soi, même si ça dure 5-10 minutes. Effectivement, on parle de la semaine où on va tous bosser, mais peut-être le week-end, on a plus le temps. J'ai l'impression que c'est vraiment une reconnexion à soi et aux autres, finalement. Et de se donner de l'amour, mais aussi de donner... Quand tu cuisines, tu donnes aussi de l'amour aux autres.
Oui, alors moi, je vais être très franche. Le petit déjeuner tel qu'il est présenté dans mon livre, d'abord, il n'est pas toujours aussi sophistiqué chez moi, bien entendu. Sinon, je pourrais être flippante. Je ne suis pas Wonder Woman. Mais en tout cas, moi, je me prépare chaque jour quelque chose pour moi. Je propose très souvent à mon mari et à ma fille de faire, de leur préparer quelque chose. Eux, ça les intéresse pas vraiment, ils sont pas tombés en fait. Jeanne, elle commence, ma fille, à avoir des envies de petit déjeuner. Il y a des choses que je lui prépare et qu'elle aime bien, mais enfin la plupart du temps c'est quand même vite expédié pour eux, parce qu'ils sont pas gourmands le matin, ils ont pas spécialement faim. En revanche, ce à quoi je tiens, c'est qu'on soit tous les trois assis à table. Et qu'on ait au moins un petit quart d'heure de présence ensemble.
Ouais, ensemble.
Pour moi, c'est essentiel. On a perdu, en fait, véritablement ça. Et en fait, il y en a un qui passe, il mange pendant que l'autre prend sa douche. Et puis, il y en a un qui écoute la radio, l'autre qui regarde son journal. Et finalement, personne ne partage de convivialité à ce moment. Donc, pour moi, ça, c'est ma règle. Je l'impose à personne, mais je trouve qu'elle fait du bien à la famille. Et l'autre chose qui me semble importante, c'est, tu parlais de « on n'a pas le temps, on a le temps ». Oui, cette notion de temps perdu, en fait, elle est essentielle. Est-ce que, en me levant 5 minutes plus tôt, j'ai perdu du temps de sommeil ou j'ai gagné du temps d'énergie ? C'est là où, en fait, on va se questionner. Par exemple, quand on fait du yoga, certains ont l'impression qu'on se fatigue, on est en train, en fait, de créer de l'énergie. Donc, est-ce que je vais véritablement récupérer de l'énergie dans mon sommeil ? Évidemment, quand on a besoin de dormir, il faut dormir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre son réveil à 3h du mat. Mais simplement, ces 5 ou 10 petites minutes dont on a besoin, ne serait-ce que se lever avant que les enfants nous réveillent.
Oui, de prendre du temps pour toi.
Mais ça change tout, c'est-à-dire s'asseoir 2 secondes au bord de son lit. On n'est pas obligé d'être expert en méditation ni moine bouddhiste pour le faire. On peut juste s'asseoir, prendre des respirations conscientes et puis poser des intentions pour cette journée. Se dire, voilà, de quoi j'ai envie aujourd'hui. En tout cas, essayer de se focaliser sur du bon et du positif pour la journée qui vient.
Parce que ça donne le ton, en fait, finalement.
Moi, j'en suis convaincue et j'en fais l'expérience à chaque fois que je prends ce temps-là pour moi. Tous les jours où je peux pas, soit parce que je pars en voyage, soit parce que j'ai un train tôt, un avion tôt, ou bien qu'il y a un événement qui fait que ça n'est pas possible, ma journée est complètement différente. Donc, j'en fais vraiment l'expérience et j'invite chacun à essayer de voir ce que ça donne que de prendre ces 5 ou 10 petites minutes. On n'est pas obligé de se faire quelque chose de très compliqué, mais juste de se couper quelques fruits dans un bol, de s'asseoir, d'avoir préparé sa boisson chaude et d'en profiter pour essayer de se dire « Ok, c'est cool, je suis assis, je suis là et je ne vais pas manger le plus vite possible, mais juste réfléchir à ce que j'ai devant moi. » Ça, c'est vraiment les clés de l'alimentation en pleine conscience. Hein. C'est être assis à table.
Oui, d'avoir conscience effectivement de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on donne à notre corps.
Oui, absolument.
Et moi le matin, alors encore une fois en semaine, en général c'est thé et pommes. Une astuce pour couper joliment mes pommes?
Écoute, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Moi, dans la découpe du fruit, j'avais vu des Japonais couper du poisson et découper des légumes quand j'étais en voyage à Tokyo et à Kyoto ensuite. Et on m'avait raconté qu'en fait, ils y mettaient vraiment tout leur sacré, toute leur essence divine dans ce moment, en plaçant les meilleures intentions dans leurs gestes. Alors moi, je suis pas aussi inspirée chaque matin, mais je trouve que c'est quand même, on peut considérer que juste préparer à manger, ça peut être une forme de méditation, si on est vraiment présent à soi-même. Donc ta pomme, bah, y a des matins, tu vas juste croquer dedans parce que t'as pas le temps de faire autrement, mais peut-être que si tu la découpes, que tu l'épluches, surtout si elle n'est pas bio, t'as plutôt intérêt à l'éplucher. Et que tu la coupes en fines lamelles dans un bol et que tu rajoutes soit des graines de fenouil par exemple, ça rajoute un petit goût anisé, ou bien de la cannelle, ou bien un peu de cardamome, un filet de citron, bah, je t'assure que ta pomme, bah, elle est complètement différente,
ouais,
elle est pimpée.
Ouais, c'est ça.
Ta pomme a pris une autre dimension. Moi je suis plutôt œuf bacon, c'est pas grave.
Tu veux dire quoi, c'est grave, c'est pas grave?
Moi, je suis pas là pour juger. J'ai des copines qui me regardent en disant tu manges du bacon tous les matins. Enfin, après, je suis à moitié belge, donc effectivement, ce que tu disais sur les gens du Nord.
Ouais.
Ma mère m'a toujours préparé un œuf, quoi.
Oui, bah, il y a plein de pays qui mangent des œufs chaque matin. Et puis, moi, je mets un point d'honneur à ne pas juger les gens sur ce qu'ils mangent. Parce que, par exemple, qu'on soit végétarien, vegan, ou bien qu'on soit carnivore. Est-ce que le fait d'être jugé va nous permettre de changer de mode d'alimentation? Certainement pas. C'est au contraire un truc qui va créer de la crispation. Donc, je crois que quelqu'un, par exemple, qui ne mange pas de gluten, soit parce qu'il a une vraie allergie ou une intolérance, ou qu'il a remarqué qu'il digérait mieux sans, que ce soit pour des raisons réelles ou imaginaires, il n'y a pas de raison de juger cette personne. Si elle a trouvé son équilibre comme ça, foutons-lui la paix. Maintenant, moi, je n'ai pas non plus envie de me laisser imposer des diktats par d'autres personnes à table qui vont me dire « Comment ? Tu ne manges pas de viande ? Non, mais tu te rends compte que tu vas perdre tes cheveux, etc. etc. » Dans les deux sens, en fait, c'est très pénible d'être jugé. Donc, moi, je ne me permettrai jamais de dire à quelqu'un « Ne mange pas de bacon le matin » ou bien « Attention, les œufs, c'est mauvais à un certain nombre d'œufs par semaine, etc. » J'ai été comme ça. J'ai été beaucoup dans le jugement. Et de moi-même et des autres sur l'alimentation. Et je crois que c'est vraiment le meilleur moyen d'aller mal.
C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ton bouquin, parce que, en fait, oui, aujourd'hui, on est très dans le healthy, dans le détox, dans les graines, etc. Et au moins, je trouve qu'il y avait un juste milieu entre des recettes très classiques, enfin des vrais pancakes avec du lait, etc. Enfin, bon, du beurre, tu mets la plaquette de beurre dans tes œufs bénédicts, c'est normal. Et des recettes beaucoup plus, on va dire, à la mode ou healthy, ou comme ça se fait aujourd'hui avec des puddings, avec des graines de chia, ce genre de choses, quoi.
Ouais, en fait, je voyage beaucoup, j'ai cette chance, et donc je découvre plein de manières de petit déjeuner, et d'un pays à l'autre, c'est vrai que c'est assez différent. Ces modes qu'on peut trouver parfois un peu grotesques, et qui d'ailleurs causent bien souvent des catastrophes sur le plan écologique, j'y pense comme avec l'avocat, les baies de goji, ou plein d'autres aliments à la mode, qui font que bah, d'un seul coup, les populations qui cultivent ces aliments sont un peu dépossédés de leurs terres pour pouvoir plaire aux Occidentaux qui aiment bien ces modes-là. Donc on pourrait me dire, bah oui, mais tu y participes puisqu'il y a un avocado toast et puisqu'il y a des bowls avec des super aliments dans ton livre. Justement, je pense que en fait, c'est l'équilibre dans une semaine à ne pas manger tous les jours du granola, à ne pas manger tous les jours un matcha bowl. Si on tombe dans ce piège-là en se disant, ah bah, j'ai abandonné les céréales industrielles et le lait 0%, parce que dans les années 2000, on m'avait dit que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour rester mince. Moi, je sais, pendant des années, j'ai mangé ça le matin en pensant que je faisais bien. Et qu'on change ça pour se dire, bah, finalement, maintenant, je vais me mettre à manger que du granola tous les matins avec un yaourt végétal et qu'on ne varie pas, on va retomber dans les mêmes pièges. Les naturopathes, la première chose qu'ils regardent pour vérifier la santé de chacun, c'est de regarder l'eau. La qualité de l'eau qu'on boit, la qualité des huiles, est-ce qu'on varie suffisamment d'huile végétale, et le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner est très souvent le moment où on répète chaque jour la même erreur. Donc, du coup, plus on va varier, plus on sera sûr de ne pas avoir besoin de se supplémenter. C'est aussi ça l'idée. Mais de la même manière que plus on va suivre les saisons, plus on aura de chance d'avoir les nutriments dont on a véritablement besoin. Je pense que c'est juste du bon sens que pendant très longtemps, on a essayé de suivre les saisons. On ne pouvait pas manger des fraises au mois de janvier, ce n'était pas possible. Mais on est dans une époque, alors un peu moins aujourd'hui, mais où on a voulu tout. Et donc, il faut juste nous raisonner, en fait, hein, et mettre du bon sens. Dans mes placards, déjà sur une étagère au-dessus de ma cuisine, il y a énormément de bocaux avec des tas de graines diverses et variées, des graines de lin, des amandes, des noisettes, des graines de courge, du sésame. Ensuite, je suis une dingue de purée d'amandes, de thym noir, blanc, même de purée de cacahuètes, etc. Donc ça, il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai un placard à épices qui est très, très fourni. Et pour les petits déjeuners, il y a quand même une base récurrente. C'est que pour tenir, enfin moi, pour ne pas avoir faim, je vais avoir besoin... Alors, c'est pas systématique, mais très souvent, quand même, j'ai besoin de céréales. Donc, j'ai toute une série de céréales, que ce soit du millet, de l'avoine, des flocons d'azuki, du quinoa soufflé, du riz soufflé. Et puis, parfois, ça peut être aussi des perles du Japon, enfin, du genre de tapioca. Mais ces glucides lents, en fait, moi, vont me permettre de tenir. Surtout que je fais quand même vraiment beaucoup de sport. Donc, j'ai besoin d'un truc qui tient.
Ouais, t'as besoin de carburant, quoi.
Ouais.
Donc, vraiment, le mot d'ordre, c'est diversité, en fait, dans l'assiette.
Ouais, et de pas se lasser.
Oui.
Si vous regardez les gens qui sont... si vous observez les gens autour de vous qui sont très déprimés, vous verrez que souvent, ils n'ont même plus d'envie, en fait. Et ça nous est tous arrivé de passer par une phase où on ouvre le frigo et on se dit, j'ai envie de rien. Ouais. J'ai envie de rien et j'ai envie de tout. Alors, du coup, on mange n'importe quoi. Ou alors, on ne mange plus du tout. Et dans ce cas-là, ce n'est pas beaucoup mieux. Donc, pour ne pas se lasser, c'est ça. C'est d'essayer de faire ses courses une fois dans la semaine et de s'y tenir. C'est un rendez-vous avec soi-même, quoi. De se dire, voilà, moi, c'est le samedi matin ou après-midi. Je sais que ce jour-là, je vais faire des courses et je remplis de fruits et de légumes pour toute ma semaine, sans en prendre trop, mais oui, voilà. Et de me dire, ah bah tiens, là, en ce moment, il y a de la rhubarbe, il y a des pommes, on peut faire de la compote, on peut garder des rhubarbes pour un repas salé aussi. Et puis... il faut pas hésiter à peut-être se laisser surprendre par du salé. Tu parlais tout à l'heure des œufs et du bacon, mais moi souvent j'ai des restes de légumes le soir, ça peut être pas mal de se faire une omelette avec un reste de légumes, des champignons qui étaient dans le frigo, ou même un reste de ratatouille. Je suis allée petit déjeuner chez Ima il y a pas très longtemps, qui est au canal Saint-Martin, qui est une super adresse. Et avec une influence israélienne. Et le matin, en fait, ils proposent dans leur petit déjeuner de la chouchouka verte. C'est vraiment un mélange de poireaux, courgettes, très assaisonné avec un œuf dedans. Ben, moi, j'ai trouvé ça génial. Et on voyage, quoi. Donc, ça peut être ça aussi, le petit déjeuner.
C'est une bonne idée. Moi, je suis très, très fan des épices de Rollinger. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à les mettre... à les utiliser le matin, en fait.
J'utilise énormément les épices d'Olivier Rollinger.
C'est les meilleurs qui existent.
Quand
t'en as goûté une fois, effectivement,
oui, et puis
c'est incomparable.
Elles sont tellement géniales qu'elles permettent de pas de rajouter beaucoup de choses.
Oui.
Par exemple, si on est plutôt un bec sucré et qu'on a du mal à se déshabituer au sucre, et ben ça peut être pas mal d'utiliser ces épices, parce que elles vont nous faire tellement voyager qu'elles nous permettent d'éviter l'ajout de sucre.
Et on voulait aborder avec toi une autre routine matinale, puisque avant de lancer ton blog, tu étais journaliste beauté.
Ouais.
Comment ça se passe dans ta salle de bain?
Alors, plus je fais du yoga, moins je...
moins ça se passe.
Ouais, j'ai une grosse routine yoga, parce que je me suis embarquée dans un training un peu particulier, pas pour... ça s'appelle un teacher training, donc il y a le mot teacher, enseignant, mais j'ai pas spécialement envie d'enseigner, j'ai surtout envie d'être plus autonome dans ma pratique et d'aller plus loin. Mais enfin, j'ai un sacré nombre de devoirs à faire et j'ai presque 1h30 à 2h de pratique chaque matin.
D'accord.
Donc, en ce moment, je vais faire peur à tout le monde, comme ça on va vraiment me prendre pour une folle. Le matin, je me lève, je vais directement dans la salle de bain, je prends de l'huile végétale, je me frotte le corps, je malaxe l'huile et ensuite je prends une brosse et je me frotte.
Tu brosses à sec.
Je brosse, pas tout à fait à sec puisqu'il y a de l'huile.
Oui, il y a de l'huile, ouais.
Et ensuite je passe sous la douche glacée.
Ouais, mais c'est super. Enfin, c'est une super routine pour le coup.
Alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre.
C'est dur, mais...
J'ai essayé plein de fois et puis je perdais vite l'habitude. Mais là, en fait, comme on me le demande...
ça fait partie du
ouais,
coup...
et que du coup, je suis plutôt un genre bon élève, assez scolaire. Je le fais et c'est dingue, je commence à y prendre goût.
Ah ouais, ça m'étonne pas.
Donc, ouais, c'est assez revigorant. Alors, surtout, quand même, quelques précautions. On ne se met pas la tête sous l'eau froide, jamais.
Ouais, ça refroidit trop le corps, j'imagine.
Voilà, bah, c'est surtout que ça va... on va avoir tous les vaisseaux sanguins qui vont se rétracter en fait au contact du froid. On n'a pas du tout envie que le cerveau cesse d'être irrigué. Donc l'idée c'est que sous la fraîcheur en fait de l'eau, donc on commence par les pieds, les mains, et puis on passe directement au ventre et au torse. Donc, c'est dur.
La partie la plus dure à
voilà, mais du coup, en fait, on rentre dedans, voilà, d'un coup. Et là, il faut surtout pas couper sa respiration. On peut même crier si on n'a pas des voisins ou des enfants qui dorment. Moi, je ne peux pas crier, donc ça fait un truc genre... comme ça. Et donc, je vous ai dit, vous alliez me prendre pour une folle. Et ensuite, on passe le pommeau dans le dos, sous les aisselles, hop. On ne reste pas avec le pommeau sur les cuisses, hein, parce que ça déminéralise. En fait, il y a énormément de réseaux sanguins dans les cuisses. Ouais. On sait que c'est des muscles qui sont très importants. Donc, l'eau peut ruisseler sur les cuisses, mais on ne passe pas exprès. Ce que moi, j'ai fait des années en pensant que c'était bien pour la cellulite.
Oui, c'est ce qu'ils disent.
Ah, bah, c'est ce qu'on écrit beaucoup.
Ça raffermit les chairs. Voilà.
Ça se trouve, c'est peut-être pour ça que j'ai des cheveux de merde. Parce que ça déminéralise et du coup, ce n'est pas très, très bon ni pour les cheveux ni pour les ongles. Donc, voilà, on fait ça. On ne reste pas des heures. L'idée, c'est que ça va réveiller. Donc alors là, si on avait du mal à se lever, en 2 secondes, on est réveillé.
C'est efficace.
C'est ultra efficace. Mais ce qui est super, c'est que quand on sort, les vaisseaux sanguins qui étaient tout petits, bah, du coup, reprennent leur taille normale. Et là, on a un effet flush avec tout le corps qui est irrigué, tous les organes qui reprennent en fait, du sang neuf d'un coup. Et du coup, bah, ça fait du bien aux organes. Imaginez les reins là, qui, d'un seul coup, se prennent un bain voilà, bien irrigué, le cœur, etc. Et on a chaud. Mais on a chaud, vraiment. Alors, on se sèche. Et moi, directement après, je me mets à faire mon yoga, ma pratique. Et pour ce qui est de la beauté, écoute, en ce moment, c'est limité à un brossage de dents.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Je me nettoie le visage le soir, moi. Donc, le matin, je fais pas grand-chose. Et je me mets juste une crème. Et s'il fait beau, de la crème solaire, parce que ça, je fais vraiment gaffe.
Ça, c'est important.
Un peu de baume à lèvres. Et si jamais j'ai l'air fatiguée, un peu d'anticerne et de blush. Mais très souvent, j'ai rien. Et pareil, parmi les choses que j'ai arrêtées, en plus du café et du coca zéro, j'ai aussi arrêté le mascara. Alors c'est un peu triste pour une journaliste, une ex-journaliste beauté, mais en fait, je trouve ça tellement agréable de pouvoir mettre son doigt sur ses cils, se frotter les yeux quand on en a envie, ouais. Sans y penser. Et surtout, moi, j'avais très souvent des petites allergies, des engelées ou des petites conjonctivites. Et bah, depuis que j'ai arrêté, j'en ai plus
ça
du tout.
Bien.
Ouais. Donc, enfin bon, si on aime le mascara, je ne recommande pas d'arrêter.
Mais tu vois, moi, j'avais arrêté un peu de me maquiller. J'ai recommencé, mais en faisant un peu ce que tu fais avec le petit-déj, c'est-à-dire... pas rentrer dans une routine, mais en fait m'amuser, et des jours où je suis pas maquillée du tout, et des jours où je vais tester des trucs, là j'ai mis du fard à paupières, j'en ai pas mis depuis 3 mois, enfin tu vois, je m'amuse quoi.
Ben, je trouve que ça, c'est quand même le propre du maquillage, hein. C'est le côté ludique, et on avait un peu oublié en fait, je trouve ça, parce que beaucoup de marques nous ont véritablement imposé en fait des routines, mais aussi moi j'y ai participé avec en étant dans la presse féminine, à dire il faut que, et puis alors surtout la tendance là c'est d'avoir les lèvres bicolores ou j'en sais rien. Je crois qu'il existe plein de choses, on peut se faire plaisir, en plus maintenant il y a des tutos, donc on peut vraiment apprendre à faire un liner un peu dingue. Et moi le maquillage ça continue à être un truc que j'adore, mais comme un jeu, pas comme une obligation.
Ouais, c'est ludique quoi, c'est pas c'est pas la société qui t'oblige à sortir maquillée parce que...
Mais de toute façon, la société, c'est nous, hein.
Ouais.
Donc, plutôt que d'aller chercher, enfin, d'accuser l'extérieur, les médias, les méchants, c'est souvent nous qui nous collons toute seule la pression.
Et surtout, t'as tendance à te prendre des réflexions genre « Ah bah donc, t'as l'air fatiguée, t'as bien dormi cette nuit, etc. » Je trouve ça hyper violent, quoi. T'as envie de dire « Foutez-moi la paix. »
Ouais, alors bah, je pense que de toute façon, ces réflexions, elles ne cesseront pas. On se juge tous les uns les autres. Il faut surtout travailler nous-mêmes à moins juger les autres. Et peut-être que toi, en fait, la seule chose que tu puisses faire, c'est de travailler sur toi pour que ça ne t'atteigne plus et pour que tu te rendes compte que les gens parlent d'eux-mêmes et pas véritablement de toi, en fait. Il faut apprendre cet accord Toltec qui est de ne jamais rien prendre de manière personnelle. C'est très difficile, c'est le chemin d'une vie, moi j'en suis convaincue, mais voilà... Le seul secret pour ne pas se laisser atteindre, c'est de commencer à moins juger les autres, parce qu'en jugeant moins les autres, on se juge moins soi-même. Et par rapport à ce que tu disais sur la bonne mine, la fatigue, etc., moi, je me maquille de moins en moins et je n'ai jamais reçu autant de compliments sur mon visage, sur ma peau, sur mon éclat. Alors probablement que ma pratique du yoga y participe. Évidemment, on voit probablement plus mes rides qu'avant parce que je les camoufle moins sous du fond de teint ou une bébé crème, etc. Mais je crois qu'il y a un rayonnement en fait qui se voit et ça, je trouve que comme anti-rides et comme côté bonne mine, c'est pas mal. Donc comme quoi, on peut tout déconstruire.
Lily, ce podcast s'appelle Je ne sais quoi. Quel est ton je ne sais quoi ?
Alors, mon je ne sais quoi ? Je sais pas. Écoute, je sais pas. C'est difficile de dire ce qu'on a d'un peu unique. Écoute, moi, en tout cas, ce qui me caractérise, c'est la générosité. J'essaye d'être extrêmement partageuse. Et avec ma communauté, mais aussi avec et surtout avec les gens qui comptent pour moi. Et je crois que quand on est généreux, on rayonne. Et c'est peut-être ça, mon je ne sais quoi. Mais sans être prétentieuse, je ne sais pas si c'est tellement prétentieux.
Non, mais après tout, tu as le côté beauté, etc. Moi, les gens trouvent ça futile, mais moi, je ne trouve pas ça futile, en fait. Donc, je ne trouve pas ça prétentieux, ce que tu es en train de dire. Après tout, s'aimer, c'est plutôt se rendre service et être...
Oui, bah, moi, en tout cas, si tu veux, moi, je suis vraiment convaincue que... On peut se sentir bien qu'en étant dans la gratitude de ce qu'on a déjà et en essayant de partager en fait cette joie. Quand tu en ressens, il y a des moments où on en a moins et donc on est contente que les autres prennent le relais.
Alors comme je suis abonnée au Crash Test depuis 3 numéros, j'ai testé la nouvelle montre connectée Fitbit. J'avais testé la toute première, je pense, il y a 4 ou 5 ans. J'en étais vite lassée. Tout ce qui est Apple Watch, etc., c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai testé la nouvelle Versa, qui sort là, je crois, en France. Alors, évidemment, déjà, pour tout synchroniser, il faut avoir fait HEC plus Harvard. Hein. Enfin, voilà, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai galéré, mais j'y suis arrivée. Alors, j'ai l'impression qu'elle réunit un peu tout. T'as tes notifications de mail, de texto, donc ça t'évite de tout le temps sortir ton portable. Moi qui ai tout le temps mon portable à la main, je l'ai un petit peu plus au fond du sac. Et ça m'évite de répondre tout de suite aux textos et aux mails. Donc, au final, c'est pas mal. Et surtout, voilà, ça compte tes pas. Ça enregistre ton sommeil, mais sans l'avantage, c'est sans dire attention, je vais dormir. Enfin, voilà, tout est assez instinctif. Je me suis pas mal remise au sport depuis quelques temps, donc du coup ça suit, voilà, ça enregistre le nombre, voilà, de fois où je vais au yoga. Je fais du yoga et de la boxe, assez antinomique, mais je fais les deux.
Bah non, c'est pas du tout antinomique, mais... à New York il y a même un cours où on mélange les deux. Tu commences par la boxe et ensuite tu finis par du flow.
Ouais. Et je fais en ce moment du flow yoga, effectivement je trouve que moi qui n'avais pas fait de sport pendant très très longtemps, ça m'incite en fait à marcher plus, en faire plus régulièrement. Et voilà, ça n'a pas révolutionné ma vie, c'est pas la Fitbit qui a révolutionné ma vie, bien évidemment, mais voilà, ça m'incite à cette envie, voilà, de plus prendre du temps pour moi, justement, et le yoga et la boxe. Je cours un petit peu. Et ça mesure tout ça. Effectivement, tout était enregistré quelque part dans un cloud et effectivement, ils savent encore plus de choses sur moi.
Ouais. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant pour prendre conscience, en fait.
Oui, exactement.
Moi, j'ai eu un bracelet Fitbit pendant quelques temps. Au début, j'étais assez excitée. Et puis, comme je suis plutôt du genre contrôle freak, même si je me soigne avec le yoga, j'avais bien aimé, en fait, ce côté... Je sais que si je n'ai pas fait mes 10 000 pas, il faut que je marche encore un peu. Donc, ça m'incitait, par exemple, à prendre les escaliers dans le métro.
Exactement.
À descendre peut-être une station avant la fin de mon arrêt de bus. Enfin, bon. Le petit bémol en fait que je mettrais sur ce type d'outil, c'est que justement sur des gens qui sont contrôle fric et qui ont du mal à lâcher prise, et où on est tout le temps en train de dire il faut ralentir, bah en fait ça va être compliqué de ralentir quand on a sans arrêt en fait un jugement le soir qui nous dit bah t'es une bonne élève, t'es une mauvaise élève,
c'est vrai.
Et qui distribue les bons points, les mauvais points. Et je pense que c'est un bon outil de prise de conscience, mais que peut-être ce qu'il faut, c'est qu'à un moment s'en détacher pour voilà, se dire bah, je sais maintenant ce que ça veut dire que de faire suffisamment d'activité, je sais ce que c'est que d'avoir un sommeil plutôt réparateur, j'ai enregistré ça dans mon corps et j'ai pu vérifier avec
eux.
Et donc je le lâche parce que j'apprends à me faire confiance seule. Et par ailleurs, sur ce que tu disais sur les informations enregistrées quelque part, tu sais qu'aux États-Unis, moi j'avais fait un article dessus pour M Le Monde sur le sport à outrance. Aujourd'hui, il y a des compagnies d'assurance qui proposent en fait à leurs usagers d'utiliser ce type de bracelet. Tu payes moins ton assurance quand tu peux prouver que tu fais 10 000 pas par
que
jour
sport,
et que tu as une alimentation équilibrée. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que dans quelques années, en fait, on saura exactement cibler bah, ceux qui ont une bonne santé, ceux qui n'en ont pas une. Et donc, ceux qui, malheureusement, n'ont pas l'opportunité de faire du sport, mais pour des tonnes de raisons. Là, on est en train de parler entre gens très privilégiés. Et il y a des femmes qui se lèvent à 5h du matin.
Qui n'ont pas le temps.
Pas pour faire du yoga, mais pour prendre leur transport, se taper 2 heures de transport. Ensuite, qui vont être caissières toute la journée et qui vont peut-être enchaîner un deuxième boulot pour pouvoir ensuite rentrer chez elles et s'occuper de leurs enfants. Elles adoreraient faire 10 000 pas par jour, mais elles n'ont pas le temps.
Ouais, elles ont pas le
temps. Et donc, du coup, elles sont déjà, en fait, elles ont déjà leur santé qui est plus mise en danger que celle des privilégiés qui peuvent s'occuper d'eux. Et ces applications risquent un jour de pointer le doigt là-dessus. Donc moi, je me fais juste un tout petit peu de soucis pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se faire un Pimp My Breakfast le matin. Et voilà, je fais l'avocat du diable, mais...
Non, mais c'est ce que tu dis est vrai. Il y a un côté, finalement, un peu Black Mirror. Ça pourrait être un épisode de Black Mirror.
Ouais,
tu n'as pas fait tes 10 000 pas par jour. Tu n'as pas mangé tes graines de chia.
Ouais. Et là, on est volontaire. Hein. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que on est Black Mirror... voilà, on voit quand ils conduisent sur un vélo pour pouvoir allumer la télévision et pour pouvoir vivre, ils sont plus volontaires. Nous, on l'est. Mmh. Donc, ça questionne quand même, en fait, véritablement nos destins d'individus aujourd'hui, de se dire quelle société on est en train de se faire pour demain. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant voilà, de prendre conscience que voilà, des fois on fait trop le mollusque dans le canapé et qu'il est temps qu'on se bouge. Mais de toute façon, la vie a vite fait de nous le rappeler. Hein. Y a un moment où on se trouve soit pas en forme, soit on a un copain qui tombe malade ou une copine qui tombe malade et on se dit stop là, il faut que je prenne vraiment en main ma santé. Mais voilà, un bon outil de prise de conscience, mais pas trop longtemps parce que je pense que ça peut nuire à la santé mentale.
Ah, mais je pense qu'effectivement, il faut vraiment se servir de tous ces objets comme starter.
Exactement.
Ça t'aide prendre conscience de certaines choses, mais effectivement, il faut s'en détacher. Il faut pas. Enfin, toi, typiquement, Fitbit, et je pense que c'est pas les seuls, tu peux rentrer le nombre de verres d'eau, de litres d'eau que tu bois par jour, tout ce que tu manges. Là, ouais, effectivement, c'est totalement délirant.
Ouais.
Parce que tu passes plus de temps à parler à ta montre qu'à parler à des vrais gens.
En plus, c'est culpabilisant surtout. Et on va passer maintenant au coup de cœur beauté de Diana, parce que...
Alors moi, j'ai deux coups de cœur. Il y a tout un tas de filtres anti-pollution qui sont en train de sortir. Bon, en plus, l'été arrivant, et de toute façon, c'est une tendance depuis 2 ans, on en a déjà parlé dans le podcast. Il y a plein de galéniques. Il y a des sprays façon eau thermale chez Patika, qui en plus est labellisé bio. Il y a une gelée nettoyante chez Byteri. Il y a des soins de nuit chez Lérac, chez Sisley ou chez Filorga. Et moi, j'ai un coup de cœur pour la brume aqua urbaine de Galénic, qui est en train d'arriver gentiment en pharmacie. C'est un tout petit flacon à... quelques pchites suffisent sur le visage, avant, après le maquillage, peu importe, voilà, ça sert aussi de fixateur. Je trouve que c'est un geste hyper simple, hyper intuitif, c'est pas trop compliqué. Le flacon est tellement petit que tu peux le mettre dans ton sac à main, dans ton sac de sport. J'en ai deux, j'ai la chance d'en avoir deux. J'en ai un à la maison et un dans mon sac de sport. Ça te permet un petit coup de fraîcheur et d'hydratation après le sport. Alors, c'est à base de pissenlit. Et en fait, j'ai appris quelque chose, le pissenlit est une plante dépolluante. visiblement toutes les grandes villes, New York, Paris, repeuplent les rues de pissenlits, parce qu'en fait ça absorbe et ça neutralise les particules de pollution. Donc sur la peau normalement ça a plutôt un effet bénéfique, c'est anti-pollution et surtout en ce moment c'est un coup de fraîcheur qui est assez intéressant. Il y a pas mal de brumes qui sont sorties depuis 2 ans qui ont quand même qui te laissaient un peu de...
Ouais, qui colle un peu.
Ouais, qui collaient, qui te laissaient un peu de particules sur la peau. Là c'est vraiment totalement invisible et c'est surtout intuitif et facile. Et mon deuxième coup de cœur, c'est Lancaster qui sort une édition limitée de ses 3 produits emblématiques pour le bronzage. Le tan préparateur, le bronzage et en fait l'après. Ils l'ont sorti en version mini. Donc le tan préparateur, c'est un scrub. Évidemment, après, il y a la protection solaire qui est un SPF 30. Et l'après-bronzage que tu dois connaître aussi, le tan maximiseur. Trois petits tubes imprimés Bayardère bleu, jaune et orange. Et c'est un peu les 3 produits à avoir pour bronzer cet été.
On a fini pour ce numéro. Merci Lily, on était ravis de te
recevoir. Merci à vous deux, merci.
Merci pour ce moment.
J'espère que les gens ont envie et de lire ton bouquin, de tester les recettes et de prendre surtout plus de temps pour petit déjeuner. Parce que... on est tous fans du petit déjeuner ici et comme vous l'aurez compris, c'est un moment important.
Oui, et si c'est pas le petit déj, je pense que les recettes, elles peuvent être déclinées pour le goûter ou pour le brunch, pour un déjeuner.
On en profite. Et on vous retrouve dans le prochain numéro. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre quelques étoiles sur iTunes et à nous retrouver sur Holy Sense.